débat et controverse sur BFM Business. Les experts de l'IA. Anthony Morel.
Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes en direct sur BFM Business, émission spéciale Les Experts de l'IA ici à Vivatech. Vivatech, le plus grand événement tech et innovation en Europe. Et on voulait marquer le coup, alors c'est une formule un petit peu spéciale hein, des experts, évidemment vous retrouverez Raphaël Legendre à partir de lundi, mais aujourd'hui c'est une émission spéciale où on voulait parler d'intelligence artificielle, où on voulait parler de robotique, de ce qui est pour certains la prochaine frontière de l'intelligence artificielle. Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, nous dit que la robotique, c'est l'IA sous forme physique, l'IA incarnée, ChatGPT qui sort de l'écran. Mais vous, est-ce que vous êtes prêt pour la robolution? C'est une des questions qu'on va se poser parce qu'ici à Vivatech, ils sont omniprésents ces robots. Ils sont de toutes les formes, de toutes les tailles. On a des humanoïdes incroyables qui dansent, qui font du kung-fu, qui font des recettes de cuisine. C'est extraordinaire. On va se demander entre la hype et la réalité industrielle s'il y a un fossé. Et puis on va se demander ce que ça va changer dans nos vies. Est-ce que ces robots vont s'inviter dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnel, qu'est-ce que ça va changer aussi pour le sens de notre vie? Ben oui, question presque philosophique. Est-ce que dans un monde où les robots pourront tout faire mieux que nous, qu'est-ce qu'on fera, nous, les humains? Et puis, quelle est la place de la France et de l'Europe là-dedans? On parle beaucoup de souveraineté technologique hein, ici à Vivatech, et c'est un gros sujet également quand on parle de robotique. 9h32, les experts de l'IA, c'est parti! Voilà, pour discuter avec moi de ces sujets absolument passionnants, eh bien, trois experts, trois connaisseurs de la robotique. À ma droite, Stéphane Bobo. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors Stéphane Bobo, c'est le fondateur d'Innovate. Et Innovate, alors on l'a déjà reçu hein, sur BFM Business, c'est le plus gros distributeur et importateur de robots chinois en France, notamment d'une marque qui s'appelle Unitree. C'est l'une des entreprises les plus avancées au monde dans le domaine de la robotique. Ils ont des robots ici, alors ça ne désemplit pas, on va en parler, on va expliquer tout ce que sont capables de faire ces robots. Et il fait le pont entre la France et la Chine en termes de robotique. Il va très souvent dans ce qu'on appelle la Robot Valley, c'est un peu la Silicon Valley chinoise, et il va nous raconter parce que c'est absolument fascinant. À ma gauche, Marine Protet. Bonjour Marine.
Bonjour.
Marine Protet, journaliste à La Tribune, spécialisée sur les sujets intelligence artificielle et robotique également, qui intervient parfois dans les experts de l'IA. Et donc on est ravis de l'avoir avec nous. Elle nous racontera ce qu'elle a vu sur ce salon parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans le domaine de la robotique. Et puis, tout au bout du plateau, c'est Olivier. Olivier Stas. Bonjour Olivier.
Bonjour Alexis.
Anthony.
Anthony, pardon.
C'est pas très loin. Chercheur en robotique au CNRS. Et vous êtes ici aussi au nom de Dynamograd, qui est un partenariat entre le CNRS et une entreprise de robotique espagnole qui s'appelle PAL Robotics. Vous venez présenter des robots aussi ici, et il y a aussi une filière européenne qui est en train de se mettre en place, et on va avoir l'occasion d'en parler. Puis là, on a quelqu'un qui a, j'allais dire, les mains dans le cambouis algorithmique, et il pourra nous dire, voilà, ce qui est vrai, les démos, est-ce que c'est un peu trop beau pour être vrai, où est-ce qu'on en est réellement dans le développement de ces robots. Voilà. Pour commencer notre discussion, je vais me tourner vers Marine, parce que Marine, comme moi d'ailleurs, elle a arpenté les allées du salon ces trois derniers jours, ce grand salon de l'innovation Vivatech. Moi, j'ai été frappé par l'omniprésence des robots. Je n'avais pas vu ça les autres années. Donc, je voulais savoir si vous aviez le même sentiment que moi et ce que vous aviez vu de plus intriguant, interpellant, bluffant en matière de robotique.
Oui, bah exactement. Effectivement, je trouve par rapport aux autres années, ils ont une place considérable. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis rentrée dans le salon, la première minute, j'ai vu un petit robot humanoïde d'à peu près un mètre qui était en train de courir entre les visiteurs. Ouais. Et c'est vrai que ça. En plus, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quelques années encore, enfin même deux ans, trois ans, quand on venait à Vivatech, le robot qui nous accueillait, c'était Pepper, donc ce robot qu'on disait humanoïde, mais qui était statique, nous parler, nous indiquer les allées du salon, parfois de manière un peu aléatoire. Et que là, maintenant, effectivement, c'était... Alors, ce petit robot, il y avait derrière, pas très loin, une opératrice qui...
Une télécommande.
Qui le guidait avec une télécommande. Donc, voilà. Et puis, ce que je trouvais aussi frappant, c'est qu'il lui avait mis un petit... donc, c'est un robot qui s'appelle Booster, je crois, d'une marque chinoise qui est avant tout destinée, je pense, aux recherches universitaires, aux développeurs. Et il lui avait mis un petit chapeau avec des oreilles d'ourson pour le rendre, je pense, sympathique. Parce que c'est vrai que c'est des robots qui ont des allures aussi parfois un peu effrayantes, intrigantes. Voilà, je pense aussi à cette vidéo virale que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux qui a beaucoup tourné de Vivatech. On voit des robots humanoïdes en pleine chorégraphie et qui se mettent à casser les écrans.
Les On va en reparler de ça aussi, parce que c'est intéressant. Voilà. Parfois, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est absolument parfait, et en réalité, les robots, j'allais dire, ils pètent les plombs. Mais déjà, dire qu'ils pètent les plombs, c'est faire preuve d'anthropomorphisme. C'est pas ça, juste ils buguent ou ils sont pas conscients de leur environnement. En tout cas, c'est pas aussi parfait que ce qu'on pourrait vouloir nous faire croire à certains moments. Tiens, je vais me tourner vers Stéphane Bobo, sur le stand donc d'Innovate et donc d'Unitri, cette marque chinoise très avancée dans le domaine de la robotique. Ça désemplit pas. Moi, je suis passé plusieurs fois. Il y a énormément de monde. Comme le disait Marine, ce qui est très malin, c'est que les robots, vouloir faire des chorégraphies, des choses incroyables. Donc là, ils font quoi? Ils dansent? Ils font du kung-fu?
Oui, alors là, ils montrent leur capacité incroyable de mouvement, d'équilibre. Et c'est vrai que il faut quand même, souvent, les visiteurs ont l'impression que ces machines sont déjà autonomes, alors qu'elles ne le sont pas. Elles sont toutes téléopérées aujourd'hui. On a quelques démonstrations d'autonomie, parce qu'on est aux prémices. Mais il faut voir que le vrai exploit, c'est leur capacité à garder cet équilibre. Ce qui n'était pas encore possible il y a quelques années. C'est pour ça que ces robots ne sortaient pas des laboratoires et qu'ils étaient constamment attachés. Là, on les voit en mouvement libre devant les visiteurs faire des acrobaties incroyables, danser. C'est pour valider le fait que le sujet de l'équilibre, qui est quand même un sujet essentiel pour la robotique demain, a été réglé.
On les voit à l'antenne, pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est vrai que c'est absolument incroyable. Alors ça, c'est pas des images de Vivatech, hein, ce sont des images qui avaient été tournées sur d'autres salons, qui ont été tournées aussi par Unitri. Il y a des vidéos qui avaient été diffusées aussi à l'occasion du Nouvel An chinois à la télé chinoise.
Et qui a marqué le monde entier.
Ouais, franchement, c'était
fou. 1 milliard de vues.
Ouais, c'est pas très étonnant, parce que là, pour le coup, on voit une chorégraphie, un ballet de robots avec un niveau de dextérité absolument, mais démentiel. C'est ça, ces robots, ils sont capables de faire ça réellement aujourd'hui, parce que vous disiez, ils sont télécommandés. Là, quand on les voit comme ça faire cette chorégraphie absolument incroyable, alors, c'est un ballet qui a été programmé, j'imagine.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, ce qu'on démontre par ce genre de choses, c'est la capacité à faire du mimétisme avec les hommes, donc d'arriver à capter justement les mouvements humains et les transcrire dans un robot. Et d'ailleurs, sur le salon de Vivatech, on fait une démonstration avec une personne qui est bardée de capteurs et qui prend le contrôle sur le robot en temps réel. Et donc, lorsqu'il va bouger une jambe, le robot va bouger en simultané. Et c'est une des techniques qui permet de créer ce genre de show, de faire de la réplication, du mimétisme avec les hommes.
Avec la possibilité demain, parce que pour le coup, on pourrait avoir un robot téléopéré à l'autre bout du monde, où un humain pourrait voir par les yeux du bon robot et réaliser une opération, je sais pas, dans un entrepôt ou dans une usine.
Alors, on aura c'est déjà des choses qu'on est capable de faire, et on a déjà des solutions, entre autres avec des entreprises européennes, pour avoir de la téléopération à distance.
Alors, on va comparer les robots. Je vais me tourner vers Olivier Stas, qui est donc chercheur en robotique au CNRS et qui fait des démonstrations ici sur le salon Vivatech d'un robot qui s'appelle Kangaroo. Alors, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas vraiment un kangourou, c'est plus un humanoïde, en fait. Moi, c'est ça, je m'attendais à avoir un robot kangourou, je sais pas pourquoi. Mais en fait, il a deux bras et deux jambes. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, ce robot?
Alors la différence, la raison pour laquelle il s'appelle Kangaroo, en fait, c'est qu'il a un système d'actionnement très différent des robots chinois. D'accord. Donc en fait, la raison pour laquelle ces robots-là, ils sont capables de faire ces mouvements-là extrêmement dynamiques, c'est qu'en 2016, il y a un professeur américain du MIT qui a trouvé a utilisé une nouvelle gamme de moteurs. Et en fait, cette technique-là s'est répandue partout dans le système. On en a fait un premier prototype qui a maintenant été qui a recopié complètement open source. D'accord, et qui est arrivé à faire ce genre de cette capacité de mouvement et d'impulsion, couplée avec l'intelligence artificielle. Et alors là, ce qui est intéressant avec ces nouveaux mécanismes artificiels, c'est qu'ils sont capables de prendre en compte la variabilité qu'on a sur un corps d'un robot humanoïde. Et si on reste dans une gamme, voilà, c'est le reinforcement learning marche très bien pour générer ce type de mouvement-là. Par contre, il y a un gros problème, c'est que ces moteurs chauffent. Donc si vous regardez, il y a une petite vidéo qui a resurfacé là sur le semi-marathon de Pékin l'année dernière avec un H1 qui courait à toute vitesse, qui était absolument impressionnant. Voilà. Et là, en fait, le robot, il fait des pit stops comme dans une Formule 1. Et vous voyez tout le monde qui met de l'eau pour chauffer, refroidir les moteurs, ce que n'a pas Kangaroo. Kangaroo est sur un système d'actionnement complètement différent et il est capable de sauter avec une chauffe beaucoup moins forte du système et il est capable de porter un poids beaucoup plus important, mais au prix d'une complexité mécanique plus importante.
Vous êtes plus fort qu'Unitri, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau. Après, les coureurs humains, ils ont aussi besoin de ravitaillement. Mais moi, cette vidéo, alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais elle est folle et je crois qu'on l'a d'ailleurs, on va pouvoir la diffuser. C'était sur le semi-marathon de Pékin, le robot qui, il faut le dire, explose le record du monde de semi-marathon humain en 50 minutes 26. Alors, record du monde.
C'est celui de cette année.
C'est celui de cette année, oui, c'est
celui
ça. Ah, vous parliez de celui de l'année d'avant.
De l'année
oui,
d'avant.
Alors, justement, mais c'est une très bonne transition parce que c'est de ça dont je voulais parler. C'est de l'accélération en réalité. Parce que, effectivement, on a un robot qui, cette année, arrive à battre le record du monde humain alors que l'an dernier, il finissait difficilement le semi-marathon, je sais plus combien il avait fait, 1h30, et effectivement il fallait le refroidir à chaque fois. On le voit, c'est incroyable les images de ce robot. Il y a une foulée assez peu orthodoxe pour les amateurs de course à pied, mais enfin franchement, si ça me permettait de faire 50 minutes au semi-marathon, je courrais comme lui, il y a pas de souci. Et moi, c'est ce qui me frappe, Marine, je sais pas, vous faites vous aussi tous les grands salons high-tech, on est à la Vivatech, mais il y a aussi le CES de Las Vegas, il y a tous les grands salons. C'est l'accélération technologique. Moi, j'ai l'impression que là, en l'espace de 12 mois, j'ai vu plus d'innovation et plus d'accélération dans le domaine de la robotique que ce que j'avais vu ces 5 dernières années. Est-ce que vous faites ce constat aussi ?
Oui, je fais ce constat-là, et surtout en termes de manipulation, parce que sur la mobilité, on avait des robots qui étaient déjà capables de se... Il suffit de, voilà, d'aller voir un entrepôt Amazon pour le constater, ils se déplacent déjà très bien, ils savent naviguer. Mais c'est au niveau de la manipulation, de la dextérité. Et moi, je suis surtout très impressionnée, par exemple, par les mains robotiques qui arrivent, comme vous dites, à plier du linge, faire... Enfin, vider, remplir un lave-vaisselle, ces actions-là qui sont quand même, demandent une dextérité assez importante. Je crois que vous le diriez mieux que vous, mais il y a eu plusieurs avancées qui expliquent cela. C'est aussi l'arrivée des modèles génératifs à la robotique qui ont permis ça. Des modèles aussi qui permettent de mieux analyser les images, des modèles qui analysent des images et qui transforment ça en action. Et aujourd'hui aussi, ce qu'on appelle les world models, qui sont ces modèles qui simulent un monde virtuel, ce que développe par exemple Yann Lequin avec AmiLabs, et qui permet ces avancées assez fulgurantes.
Avec l'idée qu'en fait le robot va apprendre comme apprendrait quasiment un enfant humain, en appréhendant le monde qui se trouve autour de lui. C'est ça la grande différence, Olivier, dans ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire que c'est l'intégration de l'intelligence artificielle et le couplage avec la robotique qui fait qu'on a un niveau aujourd'hui de dextérité, de souplesse, d'agilité qu'on ne pouvait pas atteindre ces dernières années.
Alors, c'est un facteur, mais ce que je constate depuis 3-4 ans, c'est surtout un décloisonnement scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. Les gens qui font des maths se mettent avec les gens qui font de la mécatronique, qui font du hardware, et ils travaillent tous ensemble pour avoir une accélération. Et ce qui se passe, ce qui est assez très intéressant, c'est que ça permet maintenant à des gens... Vous pouvez être un étudiant en master, j'ai le cas de figure là, un étudiant en master qui vient d'université, Sorbonne Université, École de Polytechnique d'Ingénieur, il va dans la société espagnole, Pal Robotics, il travaille avec des gens qui sont aux États-Unis, Université de Berkeley, et c'est ce qui a permis au robot Kangaroo de marcher extrêmement vite. Et là, il a un papier co-auteur sur une nouvelle infrastructure logicielle avec Peter Abil, qui est un des pionniers depuis de nombreuses années là-dedans. Et donc du coup, tous ces facteurs-là, Internet, tout combiné, ça permet des facteurs d'accélération qu'on n'avait jamais vus.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai constaté aussi. Alors, sur un autre grand salon, je me souviens, il y a encore 3 ou 4 ans, j'affrontais un robot pongiste. Et je le battais. J'étais très content, mais j'ai un niveau camping, moi, au tennis de table. Et là, il y a quelques semaines, on parlait du robot de Sony qui arrive maintenant à battre des joueurs de tennis de table professionnels. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une accélération considérable. Stéphane, un mot là-dessus. Et puis, on va parler de la Robo Valley, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, on a pu voir aussi des vidéos sur des robots Unitu en train de faire du tennis. Et donc, au-delà du ping-pong. Donc,
il n'est pas encore tout à fait au point sur le tennis, je l'ai vu. Alcaraz a encore des beaux jours devant lui. Hein. Ouais, il y a encore un peu de boulot.
Mais c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut s'attaquer finalement à des sujets extrêmement complexes, comme du basket, du tennis, enfin des choses avec plusieurs interactions. Donc, en effet, on est à cette phase d'accélération. Maintenant que ces problématiques d'équilibre ont été bien réglées, on s'attaque vraiment à l'intelligence robotique, au fait que les robots doivent comprendre le monde pour pouvoir interagir avec nous. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Alors, c'est moins waouh qu'une scène de karaté, mais c'est là où on a le gros challenge. Si demain, on veut que ces robots rentrent dans des entreprises, dans des usines, il va falloir que ces robots comprennent leur environnement.
Oui, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent se disent depuis tout à l'heure, bon, des robots qui courent et qui jouent au ping-pong et qui font du kung-fu, c'est bien gentil. Dans la vie réelle, je ne suis pas certain que ça serve à grand-chose. Mais l'enjeu, c'est d'avoir une vitrine technologique pour ce qui pourra se passer après. Et l'étape d'après, c'est les robots qui pourront faire tout et n'importe quoi mieux que les êtres humains, Marine, c'est ça?
Oui, alors il y avait quand même, on parle de ping-pong, de tennis, il y a eu une démonstration que j'ai trouvée intéressante, c'était celle de Figure AI, qui est une entreprise américaine, donc qui fait des robots humanoïdes aussi, un petit peu comme ceux de Unitree, bon, qui ne sont pas encore en vente. Mais ils ont fait récemment un espèce de live stream qu'ils ont retransmis sur les réseaux sociaux, où on voyait un de leurs robots en train d'emballer des colis sur une ligne de production. Et en face de lui, il y avait un stagiaire de l'entreprise qui faisait la même chose. Et c'était, je crois que c'était filmé sur 24 heures. Et l'idée, c'était de savoir qui allait emballer le plus de colis. C'est le stagiaire qui a gagné de quelques colis, voilà. Mais il avait l'air bien épuisé à la fin. Ouais. Bon, par contre, encore une fois, c'était une tâche quand même très précise. Le robot, je pense, n'était pas capable de, si on lui mettait un colis un peu différent ou s'il devait changer brutalement, faire une autre tâche que le stagiaire peut faire. Lui n'était pas capable de le faire. Mais
l'instant, en tout cas. Parce que demain, on aura des robots. Parce que c'est ça, l'enjeu, c'est de créer des robots multitâches. Et c'est la grande différence avec les robots qu'on avait jusqu'ici dans l'industrie, qui pouvaient être programmés pour faire quelque chose de très, très précis. C'est que maintenant, on a des robots, je parle sous votre contrôle, Olivier, mais qui sont capables finalement d'imiter l'être humain, on peut le dire comme ça?
Alors, c'est... Merci Marine, c'est très bien, c'est tout à fait le point. En fait, le problème qu'il y a, c'est quand même les robots humanoïdes et les êtres humains sont très différents. Hein. La plupart de ces robots-là ont maximum 50 moteurs. Vous avez 600 muscles, 200 utilisés pour la marche. Donc le type de mouvement que vous pouvez faire est quand même largement supérieur à ce que peuvent faire les êtres humains. Donc du coup, je véhiculer, cette idée qu'on va remplacer tous les êtres humains, j'y crois pas. D'accord. Maintenant, dire que ces robots-là ne sont pas utiles, à mon avis, c'est aussi une erreur. Il y a des industriels qui font vraiment très sérieusement, et je pense que Figure le fait très bien. Voilà, il y a des applications très précises où c'est pertinent. Je vais vous donner un exemple avec Airbus. 40% de leur temps, les ouvriers, hein, j'étais surpris, je crois que c'était 10%, et on a eu une réunion la semaine dernière. 40% de leur temps passe à aller chercher des outils. Et là, je pense qu'à nous, un robot humanoïde, dans un environnement pas très compliqué, aller chercher un outil, c'est quelque chose qui me paraît faisable dans quelques années. Par contre, il y a énormément de tâches où il faut une dextérité, une précision qui, on fait plein de tests, honnêtement, me paraissent, à l'heure actuelle, peut-être que d'ici 2 ans, ça a changé, reste quand même très difficile.
Mais alors là, vous vous inscrivez en faux avec toutes les vidéos qu'on voit, y compris d'ailleurs de la part d'Unitree, parce que moi, j'ai vu des vidéos d'Unitree, de Figure AI, d'autres entreprises, de Boston Dynamics aussi, où on voit des robots faire des choses absolument incroyables et où on se dit, bah là, j'ai un robot qui fait le lit, qui range des courses dans le frigo, qui vide le lave-vaisselle, et j'ai l'impression qu'il le fait aussi bien qu'un être humain, et un peu plus lentement en général, mais quasiment aussi bien. Est-ce que ça veut dire que ces vidéos-là, aujourd'hui, elles sont un peu trop belles pour être vraies? Elles sont enjolivées, elles sont tournées 10 000 fois et puis on garde la meilleure prise? C'est quoi la réalité aujourd'hui de l'avancée technologique de ces robots?
Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de ces vidéos qui sont très préparées à l'avance. On ne sait pas combien de scènes ont été faites avant d'arriver à trouver la bonne, surtout aux États-Unis, parce que leurs vidéos sont, je dirais, un film d'Hollywood.
Bah, celle d'Unitree qu'on a vue avec les robots qui font la chorégraphie, elles sont pas mal non plus. Hein,
ouais, franchement. Mais pour le coup, on les a déjà vues en live sur des scènes. Donc c'est la grosse différence avec les Américains. C'est que les Américains voient des vidéos, mais moi je les vois jamais faire des shows dans des salons réellement.
Ceux de Figure, ils sont toujours, quand je les ai vus sur des salons, ils sont enfermés dans des petites cabines.
Le Tesla Optimus, c'est pareil, l'année dernière, ils étaient ici enfermés dans une cabine. Ouais. Et ils les mettent.
C'est peut-être plus prudent aussi.
Tout à fait. Et c'est vrai que même Tesla, on l'a vu dans certaines vidéos aussi, lorsqu'ils sortent les robots, ils sont complètement téléopérés. Lorsqu'on voit ce robot qui sert des pop-corn, il y avait un gars derrière avec un masque en VR qui faisait les mouvements. Donc, il y a un gap, en effet, j'ai l'impression, entre les États-Unis, la Chine aujourd'hui, qui n'a pas peur de présenter, de montrer, quitte à avoir des bad buzz parfois sur des robots qui se gamellent.
Il y avait un robot Unitree qui pétait les plombs dans une usine à un moment, je me souviens, où on le voyait qui commençait à taper.
Non, c'était dans un lab, mais c'est simplement parce qu'à un moment donné, le robot ne touche plus le sol, il perd le contact au sol et d'un coup, il commence à paniquer. Voilà. Donc voilà, bon, alors ça fait.
Il commence à paniquer. Non, mais c'est vraiment les expressions qu'on utilise, hein, parce que c'est vraiment des expressions qui sont purement humaines et non, un robot, il n'a pas paniqué en réalité. Il est juste.
Il a besoin d'être en contact au sol pour trouver, recalculer son équilibre, en fait. Mais simplement pour dire que sur la partie manipulation, ici à Vivatech, cette année, on présente avec une jeune start-up française, Bleu Robotique, une démonstration justement 100% autonome qui a été appris avec quelques dizaines de répétitions où on a, et d'ailleurs ces répétitions se sont faites dans nos bureaux chez Innovate, donc on a pu assister vraiment en temps réel au travail qui a été fait, et donc on n'avait pas besoin de centaines et de centaines d'heures de travail pour que le robot prenne un objet, l'installe dans une machine, ferme le capot, lance la commande de gravure laser et ressort le produit.
Ouais.
Donc on a déjà des prémices aujourd'hui de ce qui est en train d'arriver.
Jusqu'où on peut aller et c'est quoi le calendrier quand on dit voilà un robot qui sera capable de réaliser potentiellement n'importe quelle tâche? Marine, moi encore une fois, ce qui me frappe sur ces différents salons Vivatech, le CES, c'est que j'ai l'impression que maintenant il y a plein de boîtes qui se sont spécialisées sur une partie spécifique du robot. Donc il y en a qui font le robot, l'humanoïde, il y en a qui bossent sur la main, la dextérité, le cerveau. J'ai vu des boîtes qui dont le but c'était d'avoir des robots les plus réalistes possibles, donc ils font des peaux en silicone, des yeux, etc. À la fin, c'est quoi? On imagine Westworld ou iRobot, enfin des séries comme ça. Comment est-ce qu'on se, si on se projette un peu?
Mais je pense aussi. Alors effectivement, ils se positionnent sur des choses très spécifiques, mais quand même, ce qui est visé, c'est un peu d'avoir un robot généraliste, enfin qui, parce qu'aujourd'hui justement, ils sont hyper spécialisés. Et si j'ai changé dernièrement avec une startup qui s'appelle Genesis, qui est une startup française qui vient de présenter son premier robot et qui m'expliquait que l'idée c'était quand même d'avoir, comme pour les grands modèles de langage qui ont appris une quantité via une quantité de texte impressionnante sur internet, des sortes de capacités générales sur le monde mais de manière textuelle, là c'était de faire la même chose en robotique en les nourrissant de vidéos, donc d'images de gens en train de faire des Rubik's Cube, en train de remplir un lave-vaisselle, mais des choses vraiment très variées pour que in fine ils arrivent à s'adapter dans n'importe quelle situation et que justement cette connaissance générale leur permette d'être experts, en tout cas très bons dans certains domaines. Mais je crois que ce qui leur manque aujourd'hui, c'est les données, justement. Enfin, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est pour arriver donc à ce monde quand même où les robots arriveront, comme dans Westworld, à s'adapter à leur environnement et voilà, à être hyper réalistes. Ils ont besoin quand même d'énormément de données, ce qu'on trouve beaucoup moins facilement que le texte, parce que c'est des vidéos quand même qui sont censées être prises du point de vue de l'humain ou du robot qui n'existe pas en aussi grande quantité.
Pour l'anecdote, on va parler des données justement, parce qu'effectivement c'est le point clé. Il y a une entreprise aux États-Unis, là on en a parlé il n'y a pas longtemps sur BFM Business, qui propose maintenant de faire le ménage gratuitement chez vous. Et donc la femme de ménage ou l'homme de ménage arrive, mais il a une caméra frontale qui filme tout ce qui se passe et ces données servent à entraîner les robots. Et du coup, en échange, vous ne payez pas votre ménage, mais la data a cette valeur-là. C'est la clé de tout, la data, Olivier, pour entraîner ces robots et aller vers ces robots multifonctions.
Alors, ça a été les données. Hein. Il y a eu plusieurs ruptures scientifiques qui ont montré qu'on arrivait à passer des paliers quand on avait suffisamment de données. Et je pense que le pari de Genesis, c'est de dire, oui, mais ces données-là, est-ce qu'on peut pas les générer si on est capable de bien simuler le monde? Voilà. Et Genesis est connu pour un simulateur qui est très, très fort là-dessus. Et nous, le parti pris qu'on a au niveau de nos laboratoires, c'est qu'on peut pas se permettre de ce que font les entreprises chinoises qui ont des entrepôts entiers avec des gens qui télopèrent des robots. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on prend des vidéos sur Internet et on essaye d'avoir un pipeline logiciel complet qui prend la vidéo et qui le refait sur le robot. Et ça marche. Ça explose, à mon avis, sur Internet et ça va permettre de faire toute une gamme de mouvements qu'a décrit Stéphane précédemment, qui sont pas très précis, parce que Marine l'a très bien dit, il y a quand même un gros, gros problème avec la dextérité. Et on n'imagine pas à quel point les mains humaines sont extrêmement difficiles à refaire, d'accord? La plupart du temps, avoir des données qui sont pertinentes pour le robot, elles sont extrêmement difficiles. Il y a toujours un gap entre ce qu'on montre par un robot, on n'est pas toujours capable de refaire ce qui est démontré par un être humain. Et là, vraiment, c'est assez difficile. Et juste un dernier commentaire sur la question des world models du mouvement. Il y a vraiment un point qui est extrêmement important, c'est qu'à l'heure actuelle, les VLA, ils fonctionnent. C'est à une rupture.
Les VLA, c'est
les Vision Language Action Model, où à partir.
Alors, c'est quoi? Voilà, expliquez-nous.
On regarde une scène, le robot est capable de le comprendre, il utilise un LLM pour avoir une séquence de tâches. Un opérateur non roboticien lui donne un ordre, par exemple, mais débarrasse la table. Et donc, le robot en déduit toute une séquence d'actions à faire.
Ok.
Ça fonctionne depuis 4-5 ans, on a eu les premiers trucs. Sauf que ça fonctionne 50% du temps. Vous mettez ça dans une entreprise, vous bloquez une chaîne de production une fois sur deux, vous avez une grève juste après.
Ah oui, c'est ça. Effectivement, c'est une des limites. Alors, c'est quoi d'ailleurs les grandes limites pour pouvoir arriver jusqu'à ces robots multitâches? On parlait de Westworld, peut-être qu'on exagère un petit peu. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est cette série où on a des robots qui sont d'un réalisme. On ne peut même plus faire la différence entre le robot et l'être humain, finalement. Je ne sais pas, est-ce qu'on y arrivera déjà un jour, à votre avis, vous qui avez encore une fois les mains dans le cambouis algorithmique? Et c'est quoi les limitations technologiques qui nous retiennent par rapport à cette échéance-là?
Plein de fois, j'ai dit qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles et la vérité m'a très rapidement montré que j'avais tort. Donc du coup, je vais être prudent là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'état actuel, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles. Et notamment, je pense qu'encore une fois, on l'a bien vu là, vous l'avez vu, le robot qui a gagné cette année, qui a fait le record du monde. Vous avez vu ce qu'il avait derrière? Il avait un lidar énorme, juste pour être sûr qu'il restait sur la piste et percevoir l'environnement. Vous le faites tous les jours, sans y penser, c'est absolument pas un problème. Et là, on a un vrai nœud de compréhension du monde, de l'environnement, d'une tâche qu'on vous demande et de vous y adapter au niveau du système. Et c'est ce qu'on a vu aussi, c'est pour ça que les unitries ont tapé sur les téléviseurs. Ils n'ont pas compris le monde dans lequel ils évoluent.
C'est ça, c'est la prochaine étape. Alors, on a la pub dans pas très longtemps, mais juste une dernière question pour tous les deux. Pourquoi est-ce qu'on choisit comme form factor l'humanoïde? Moi, j'ai l'impression que, déjà, c'est le plus effrayant pour les êtres humains quand on est face à un truc qui nous ressemble vaguement. On a ce sentiment un peu de malaise, un peu bizarre. Et est-ce que c'est vraiment le format le plus efficace pour réaliser toutes les tâches qu'on veut réaliser?
Au final, on a créé un monde qui est adapté à l'homme. Les poignées de porte, il y a plein de... les tailles des tables et ainsi de suite. Donc en fait, finalement, le robot humanoïde, c'est celui qui va s'intégrer le plus facilement dans notre environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pousse vers ce robot universel qui ressemble à l'homme en termes de taille, en termes de nombre de bras. Pourquoi on ne lui rajoute pas 4 bras? En fait, déjà, pour lui apprendre avec à 2 bras, on peut faire beaucoup de choses. Donc... on se rapproche de plus en plus et dans les entreprises, on voit aussi émerger un besoin de robots à roues. Par exemple, où on se dit des fois, les jambes ne sont pas forcément nécessaires. Limite, c'est un handicap, c'est trop long. Ouais. Et donc, on commence à voir justement une génération de robots motorisés sur des bases AMR qui permettent de pivoter, d'être beaucoup plus fluide, moins d'à-coups que des robots à jambes.
Olivier, d'un mot?
Oui, alors moi, je m'intéresse aux robots humanoïdes parce qu'en fait, ce qui me fascine, c'est ce que sont capables de faire les êtres humains et essayer de reproduire et de développer des nouvelles techniques d'intelligence artificielle sur des structures équivalentes.
Bon, pour conclure, Marine, et après on passe.
Oui, non, effectivement, je pense que déjà ça relève aussi un peu d'un fantasme et de l'idée que effectivement, si on reproduit des robots qui nous ressemblent, on arrivera à mieux interagir avec eux. Mais par contre, effectivement, ils sont pas toujours hyper adaptés dans les usines, par exemple. C'est peut-être pas utile d'avoir des jambes. Voilà.
Bon, je pense qu'on a fait un bon état des lieux d'où est-ce qu'on en est dans les avancées incroyables de la robotique. Une petite page de pub et on se retrouve juste après. On va se poser la question, est-ce qu'on est prêt pour la révolution? Qu'est-ce qu'elle va changer dans nos vies personnelles et professionnelles? Restez avec nous, on se retrouve tout de suite sur BFM Business.
Débat et controverse sur BFM Business. Les experts de l'IA, Anthony Morel.
Allez les experts de l'IA, c'est reparti, la deuxième partie. On continue notre émission spéciale ici depuis VivaTech, le plus grand salon européen dédié à l'innovation, à la technologie, avec des robots partout autour de nous. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, de cette prochaine peut-être révolution industrielle, la révolution robotique, avec nos trois intervenants, Stéphane Bobo, fondateur d'Innovate, Olivier Stas, chercheur en robotique au CNRS, Marine Protet, journaliste à la Tribune. On va continuer. Alors, on a fait un état des lieux, on a bien expliqué où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes d'avancées technologiques robotiques. Maintenant, je voudrais qu'on réfléchisse un peu à la façon dont ça va transformer nos vies. Très concrètement, ces robots, déjà dans nos vies professionnelles, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a des robots industriels, bon ça fait des décennies évidemment, mais les robots humanoïdes, multitâches, dont on a parlé dans la première partie, qui ont l'air absolument incroyables, est-ce qu'ils sont déjà utilisés dans certaines industries, dans certains secteurs d'activité? Qu'est-ce qu'ils font très concrètement au-delà de faire du kung-fu sur les salons?
Alors, pour tout vous dire, depuis un an, on a reçu plus de 400 leads commerciaux. De la PME jusqu'au grand groupe du CAC 40. Donc ça intéresse tout le monde, toutes les entreprises, tous les secteurs. Vraiment, il n'y a pas de secteur particulier, même si l'automobile est très en demande parce qu'ils ont une pression très forte sur ces sujets-là. Donc il y a une attente d'avoir ces robots. Les premiers marchés sur lesquels on imagine pouvoir démarrer des proof of concept, des démonstrations en usine, principalement dans des secteurs logistiques dans lesquels on va... manipuler, déplacer des paquets, dépalettiser, ce genre de choses. Donc des fonctions vraiment très répétitives sur du colis. Et puis on a les tâches répétitives en usine, donc la manipulation sur une machine. Donc tout ça, ce sont vraiment les premiers métiers sur lesquels il y a de la pénurie, il y a de la pénibilité d'emploi. Et donc c'est les sujets qui nous intéressent dans les premières années, et on pense que les premiers déploiements commenceront en 2028.
2028, Olivier, c'est à peu près le timing que vous avez en tête. Vous, vos robots par exemple, on en est encore en phase de recherche et développement. Est-ce qu'il y a déjà des tests en usine? Parce que j'ai l'impression que ces tests dans les usines, dans les entrepôts, on les voit déjà depuis des années, mais finalement ça n'a pas l'air de se matérialiser ou de se généraliser.
Alors, on travaille avec pas mal d'entreprises. Notamment, on a eu un laboratoire joint avec Airbus, où ils ont des cas très concrets, par exemple sur du perçage. Alors, le perçage, c'est tellement difficile. Il faut appliquer 60 kilos de pression pour la déformation, donc ils ont besoin de robots très spécifiques qu'ils ont déployés récemment et pour lesquels les robots humanoïdes ne sont pas du tout adaptés. Et donc, nous, on s'est attaqué à un autre problème qui s'appelle l'ébaviurage. Donc, une fois que vous avez fait le perçage, il reste des petits copeaux de métal. Donc, l'ébaviurage, c'est l'opération où vous venez avec une sorte de perceuse qui a un embout très spécifique, revenir enlever ces copeaux de métal. On a mis 10 ans, deux projets européens, à avoir maintenant une démonstration où un robot fait ça de façon quasiment autonome en utilisant des techniques d'intelligence artificielle du classique pour réussir à faire ça sur une preuve de concept de façon répétable et dans des mesures qui nous sembleraient acceptables pour des industriels. Donc il y a quand même un chemin non négligeable, et c'est là où j'insiste, c'est qu'une fois que la hype sera passée, l'engouement, c'est des choses où c'est possible. Mais il ne faut pas sous-évaluer les problèmes et le niveau d'investissement qu'il va falloir continuer à arriver pour arriver à la fin à faire une véritable innovation qui va durer dans le temps.
Mais j'ai l'impression qu'on nous en parle depuis des années, qu'on ne les voit pas forcément arriver. Alors peut-être parce qu'on a un prisme franco-français aussi. Je lisais qu'en Corée du Sud, on était le premier pays, enfin la Corée du Sud est le premier pays à avoir atteint les 10% de main-d'œuvre robotique. C'est-à-dire qu'ils ont un robot pour 10 salariés, quoi, en gros humains, et que les robots commencent à s'inviter dans la livraison de colis, dans les serveurs de restaurants. Alors c'est pas forcément des humanoïdes à chaque fois, mais en tout cas ils commencent à s'installer dans la vie quotidienne tout autour de nous. En France, on voit pas ça encore. C'est ce qui va nous arriver à un moment. On a pris un coup de retard là-dessus, Olivier.
Énorme.
Marine.
Pardon.
Marine et Olivier.
En Chine aussi, je crois que les robots d'Unitri sont déjà en vente, donc on en voit quelques-uns dans la rue, effectivement, dans les événements. Moins en France, mais il y a aussi une question de coût, puis aussi une question d'entreprise qui décale sans cesse leur commercialisation. Je pense à Tesla, par exemple, qui avait annoncé des dates, puis qui chaque année décale la commercialisation d'Optimus, voilà, son robot humanoïde. Et les coûts, même s'ils ont énormément baissé, je crois qu'il y a des analystes qui disent qu'en un an, le coût des robots ont chuté de 40%, mais voilà, qui représentent malgré tout un investissement important.
Olivier, vous disiez retard énorme ?
Énorme. Alors, très rapidement, la Chine, à l'heure actuelle, depuis 2023, à elle seule, achète plus de robots industriels que le reste du monde. Ils ont, depuis 10 ans, avant les robots humanoïdes, ils avaient vu qu'ils allaient perdre en productivité parce qu'il y avait une montée du niveau de vie de leurs ouvriers. Donc ils ont décidé d'aider toute leur industrie à designer des produits qui soient faits par des robots industriels. Et c'est pour ça qu'on voit des acteurs comme BYD, qu'on a un niveau de production, on est saturé par la Chine, c'est qu'ils ont orienté toute leur industrie à utiliser des robots. On voit des DAC Factory qui vont au-delà des robots humanoïdes. Maintenant, sur les robots humanoïdes spécifiquement, nous on développe des technologies qui sont utilisées pour la robotique complète. Ça peut être utilisé, par exemple, on a dit, pour des robots à roues, parce que quand vous avez un robot à roues qui manipule des poids, vous avez encore des problèmes d'équilibre. Ouais. Voilà. Et par exemple, les techniques que nous on a développées ont été utilisées par des tractopelles qui, quand ils creusent, doivent maintenir leur équilibre. Et donc, ce qu'on développe, c'est fait. La première fois que je suis allé dans des salons chinois, c'était les entreprises chinoises qui me remerciaient du logiciel qu'on avait fait, qu'on avait amené open source. Malheureusement, pas exploité par les entreprises européennes, à mon grand désarroi. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas de problème pour travailler avec des entreprises européennes s'ils veulent prendre le risque de développer de l'innovation comme Wondercraft.
Je me tourne vers Stéphane, parce que vous, pour le coup, la Chine, vous y allez assez souvent. Vous faites ce pont, finalement, entre la robotique chinoise et l'intelligence artificielle en France. C'est ce que vous constatez là-bas, c'est-à-dire que les robots, ça fait partie de la vie quotidienne, finalement, beaucoup plus que ce qu'on a ici. C'est un truc normal là-bas.
Alors déjà, ils sont beaucoup moins apeurés que nous, Européens, face à ces machines. Ils trouvent ça très très sympathique. Il y a plus de 150 fabricants de robots manuels qui sont lancés en Chine en moins de 5 ans. Lorsqu'on en a à peine une dizaine en Europe ou aux États-Unis pour montrer l'écart. Donc il y a une vraie volonté de la Chine, parce qu'ils sont face aussi à une crise démographique. Donc ils anticipent aussi un besoin de ressources dans les usines, dans plein de métiers en fait différents, parce que la Chine est face à une vraie crise démographique. Donc il y a un vrai enjeu. Et donc aujourd'hui ils y vont complètement, et ils y vont très tôt en démarrant par l'éducation. Faut savoir que la Chine a annoncé très récemment qu'il y aurait des cours de robotique et d'IA dès l'âge de 6 ans.
Ouais, c'est ça.
Dans les universités en Chine, les étudiants travaillent directement avec les mêmes équipements que ce qu'on a dans des usines chez BYD. Les mêmes bras robotisés. Moi, j'ai visité les deux dans la journée. J'avais les mêmes équipements dans l'université que dans l'usine.
C'est complètement intégré au système, en fait.
Exactement. Il y a des ingénieurs de ces grands groupes qui viennent discuter sur des problématiques techniques avec les étudiants, avec les professeurs, qui leur donnent des sujets. Donc ces étudiants, quand ils ont fini leurs études, ils sont directement opérationnels. Ils connaissent toutes les problématiques, ils ont les mêmes technologies et ils sont directement opérationnels. Donc il y a une vitesse entre le service public, le service privé chez eux, qui fonctionne parfaitement. C'est là où nous, on a encore des grandes difficultés. Lorsque Olivier parlait justement des entreprises françaises à embrasser ces innovations de la recherche ici, on n'a pas cette culture aujourd'hui.
Racontez-nous un peu, parce que je sais que vous allez souvent dans un endroit qu'on appelle la Robot Valley.
Nanshan Robot Valley.
Là, comment vous dites ?
C'est à Nanshan, district de Shenzhen. C'est une sorte de Silicon Valley autour de des robots. Il y a énormément d'entreprises qui se sont fondées là. Et surtout, vous avez tout l'écosystème. C'est-à-dire que vous avez besoin de modifier un moteur, vous avez le sous-traitant qui arrive dans la demi-journée. Et donc tous les sous-traitants sont à côté. C'est pour ça qu'ils ont une expression où on parle du Shenzhen Speed, mais il y a aussi step down, step up, où en fait vous avez des sous-traitants qui sont à l'étage du dessus ou à l'étage du dessous.
Ouais.
Donc tout est proche, tout est rapide. Un prototype peut être fabriqué en 18 heures.
J'ai vu des écoles de formation pour robots. Alors, je ne sais pas si c'est à cet endroit-là en particulier, mais où on entraîne, les vidéos sont incroyables, où on voit des robots à la chaîne qui réalisent des tâches en continu, qui sont dans une sorte d'école ou de centre de formation. Vous avez vu ça, vous, c'est là-bas ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que pas très loin de Shenzhen, il va y avoir un espace d'entraînement de robots dès 2027 à ciel ouvert de 100 000 robots. Donc la ville a décidé de déployer, pour créer de la data, pour créer du retour d'expérience, de déployer 100 000 robots à ciel ouvert dans plein de métiers différents pour récupérer de la data. Donc ils se donnent les moyens, justement quand nous on essaie de travailler avec de la vidéo, eux ils les mettent en situation pour récupérer ces informations-là.
Bon, Marine, il faut aller faire un reportage dans la Robot Valley. Là, ça a l'air complètement fou, non ?
Oui, carrément, oui.
Et Olivier, ça vous inspire, ça, quand vous êtes dans l'environnement de recherche français, pour le coup, quand on voit les moyens qui sont déployés en Chine avec cette Robot Valley, est-ce qu'on a quelque chose, un embryon de quelque chose de similaire, ou on est complètement à des années-lumière de tout ça en France ?
Disons que... Je trouve qu'il y a certains excès. Voilà, il y a des modes d'investissement sur des choses qui me paraissent pas très très bien définies. On a beaucoup de projets, des gens qui viennent nous voir avec des ROI industriels que je comprends pas. On a des industriels qui font des choses extrêmement intéressantes, mais on a par exemple des belles pépites comme Wondercraft qui fait un travail fantastique avec Renault, qui a eu, je dirais, c'est un parcours vraiment quasi vraiment bien. Ils ont été chercher les compétences au niveau des laboratoires. Ils ont pas eu peur de prendre des risques. Ils se sont rendus compte que certaines approches fonctionnaient pas, ils se sont rabattis sur d'autres. Donc
je rappelle que Wondercraft, à la base, ils faisaient des exosquelettes pour les personnes lourdement handicapées, et ils se sont diversifiés vers les robots humanoïdes, et qu'aujourd'hui leurs robots travaillent entre guillemets dans les usines de Renault pour de vrai.
Tout à fait. Et sachant qu'ils ont utilisé des algorithmes que nous avons développés dans notre laboratoire, qui étaient à la fois pour les robots humanoïdes, pour les problèmes d'équilibre sur l'exosquelette, qui encore une fois s'appliquent. Et on leur a fourni, certains de nos étudiants maintenant travaillent chez Wondercraft, et je pense que c'est une grande fierté. Donc du coup, moi j'aimerais un petit peu plus de prise de risque. de la part de nos industriels sans forcément... on fait des choix aussi, hein, parce que le choix de faire, d'investir autant sur les robots humanoïdes, on a une présentation en 2024 d'un professeur chinois qui nous a dit textuellement « Elon Musk est un visionnaire en business, il a décidé de faire des robots humanoïdes, on fait pareil ouais. ». J'espère que nos industriels ont un peu plus de vision que ça. Je le crois vraiment avec Wondercraft et avec certains autres acteurs qu'il faudrait pousser et aider.
Voilà. Je rappelle, alors la transition avec Elon Musk est intéressante parce qu'il a quand même dit, Elon Musk, qu'à terme... Alors après, c'est Elon Musk, il a un côté VRP, il dit beaucoup de choses, mais il délivre aussi en partie, au moins en partie. Et il a dit qu'à terme, il voulait produire plus de robots Optimus que de voitures Tesla. Sa vision, c'est ça, à long terme. Est-ce que ça veut dire que demain, on aura tous un robot avec nous ? Est-ce qu'on aura des millions de robots dans les usines ? C'est comme ça qu'on peut imaginer l'avenir, Stéphane ?
Les études de marché, entre autres de Morgan Stanley, qui parlent d'un horizon à 2050 où il y aura 1 milliard de robots sur Terre, soit un robot pour 10 habitants. Donc c'est un peu les projections prospectives qui sont faites par les analystes aujourd'hui. De manière plus court terme, à horizon 2035, on parle d'un marché de 38 milliards en fourchette basse et à plus de 150 milliards hein, dans moins de 10 ans. Et ces études-là ont été déjà revues 6 fois à la hausse en un an. Donc, on voit que c'est en train de s'accélérer. Mais est-ce que... un des sujets pour nous qui est important, c'est de savoir sur quoi, en France, on est fort. Est-ce qu'on doit tout réinventer en France ? Moi, j'ai vu l'évolution de la Chine en 20 ans, de passer d'un métier de sous-traitant industriel à un cœur du réacteur de l'innovation mondiale aujourd'hui. Ils ont une capacité sur le hardware qui est colossale, avec tout cet écosystème, cette supply chain. Est-ce qu'on doit, nous, concentrer nos efforts à être capables uniquement de refabriquer des choses qui sont parfaitement exécutées en Chine, ou au contraire, de se dire, est-ce qu'on peut essayer de coopérer ? Est-ce qu'on peut essayer de mettre nos propres logiciels sur ces machines et pas forcément avoir la position américaine d'un rapport de force brutal avec la Chine ?
Oui, mais sauf que ça, peut-être aujourd'hui, mais on le voit bien avec l'histoire d'Anthropic. Je fais un pas de côté, mais ce qu'on a appris cette semaine avec les Américains qui, à un moment, disent « Ah ben non !» Les derniers modèles d'Anthropic, ils sont trop puissants, ils sont trop dangereux, il faut que les non-américains n'y aient pas accès. Il y a un énorme sujet de souveraineté technologique. Il existe aussi pour les robots, ce sujet. Si demain, les États-Unis ou la Chine disent « Bah non, bah les gars, nous, les robots, on les garde pour nous » ou « Certaines fonctionnalités, vous n'y aurez pas accès », c'est un énorme sujet, hein, Marine.
Oui, c'est un gros sujet. Oui, effectivement, on peut imaginer si du jour au lendemain, ils décident de couper un modèle d'IA qui sert en robotique, comment on se retrouve. Mais il y a des entreprises qui essayent de développer des visions un peu différentes. Je pense à Hugging Face, qui est une start-up franco-américaine, pas totalement française, mais qui a, une vision de la robotique intéressante parce que eux, en gros, ils disent on veut pas d'un futur où il y aura que des robots propriétaires qui sont ceux de Nitri, ceux de Tesla, ceux du Figure AI. Il faut essayer d'avoir que chacun puisse s'emparer de la robotique et puisse être capable de développer des modèles de robotique pour les programmer soi-même. Et donc, ils ont mis en vente un petit robot qui n'est pas un humanoïde, mais qui est un robot de bureau à, je crois, autour de $300, qui permet à chacun de se développer dans l'idée que ce soit avec des... Voilà, qu'il est en open source, ça veut dire que chacun peut y accéder et le modifier, etc. Donc je pense que c'est peut-être vers ce genre de modèle-là qu'il faut aller. Et puis au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on ne maîtrisera peut-être pas toute la chaîne, mais en tout cas, il y a certains... points de la chaîne robotique qu'on peut, sur lesquels on peut aller. Donc c'est ce que fait Emmy Labs sur les world models. Peut-être que si on est bien présent sur la couche logicielle, ça nous donne un effet de levier et on est moins dépendant des autres pays.
Olivier, je sais que ce sujet de la souveraineté il vous est cher. Est-ce qu'on peut être présent à tous les échelons de la chaîne de valeur ou est-ce qu'il faut, comme le dit Stéphane, faire des choix d'une certaine manière?
Alors, au niveau industriel, je pense que Stéphane est beaucoup plus compétent que moi pour vous répondre. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Marine. Hugging Face, on a nos anciens Thésards qui est allé chez Hugging Face et qui a fait un prototype de robot bipède à 2 500 € avec la collaboration de Hugging Face. Donc, il y a une porosité entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie qui fait que, oui, à l'heure actuelle, à cause de cette accélération, nous avons les capacités en France et en Europe de pouvoir innover. Ensuite, à quelle échelle on veut le déployer? Je pense qu'il y a un choix collectif à faire. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intéressant, social? Ça, voilà. Je pense que c'est plus politique qu'autre chose. Mais on peut le faire. Et nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est... Marine parlait de comment ça s'appelle, d'être autonome. Je pense que nous, c'est là-dessus vraiment qu'on axe. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi avec la comparaison avec l'être humain. Vous ne vous branchez pas sur un cluster quand vous apprenez à faire du sport. D'accord ? Tout est embarqué quand ça s'appelle dans l'être humain avec une faible énergie. Et donc, du coup, il y a énormément de recherches encore à faire là-dessus sur utiliser des nouveaux composants. Et on a tout un écosystème très pertinent pour aller dans ces directions-là.
Ces robots, donc, ils vont s'inviter de plus en plus dans nos vies professionnelles. On le voyait, et c'est vrai que l'exemple que donnait Marine sur ce concours dans l'entrepôt entre le robot et l'humain, en réalité, l'humain a gagné, mais en fait, c'est le robot qui a gagné d'une certaine manière, parce que l'humain, il a été obligé de bosser 24 heures. En temps normal, il ne le ferait jamais. Donc, on se dit que la bataille, d'une certaine manière, est déjà perdue. Est-ce que dans nos vies personnelles, on va aussi avoir des robots qui vont s'inviter? On parle beaucoup du robot majordome. Moi, ça fait des années que j'en entends parler sur les grands salons technologiques, qu'on voit des démonstrations plus ou moins spectaculaires. Optimus, ça fait partie des objectifs hein, aussi de Tesla. C'est quelque chose de réaliste, cette idée d'un robot qui pourrait réaliser toutes les tâches, toutes les corvées à ma place dans quelques années?
En tout cas, c'est un rêve, c'est un fantasme qu'on a tous. Et à chaque fois qu'on voit ces vidéos, on se dit « ça y est, il est là ». Mais non, il n'est pas encore là. Donc, on ne le voit pas avant 10 ans. Hein, et quand on dit 10 ans, parce que c'est qu'on n'a pas une date très précise, mais on ne le voit pas pour tout de suite, ça c'est sûr. On sait qu'il y a encore énormément de travail et les World Models est une des clés potentielles pour y arriver. Parce qu'on sait qu'on n'a pas aujourd'hui toute la data, toute la connaissance pour que le robot comprenne le monde, comprenne la physique, s'adapte à des environnements complètement disparates d'une maison à une autre. Donc on en est encore très 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 loin. Mais c'est un rêve.
Vous touchez tous mes espoirs là. Moi j'avais l'impression en voyant toutes les vidéos qu'on voit sur internet depuis quelques mois et même quelques années que ça y est, on y était. Genre les robots de Figureia, et vous les avez vus aussi Marine.
Alors par contre, il faut la maison qui va avec quoi, parce que il faut l'endroit pour le stocker.
C'est aussi ça, c'est vrai. Mais elles sont très spectaculaires. On y voit alors, pour ceux qui nous écoutent hein, mais on a vraiment des humanoïdes qui la dernière c'était ils faisaient un lit. Donc ils sont deux et puis ils se mettent à faire un lit je parle sous
casse
le contrôle
des œufs alors que c'est quelque chose effectivement.
C'est ça. Mais la grande difficulté c'est quand même de s'adapter à toute la disparité, la différence d'environnement. Parce que l'entraîner dans un endroit très spécifique, où on lui a donné énormément de data sur cet endroit-là, ça n'a rien à voir. Chez vous, chez moi, ainsi de suite. On a des environnements qui sont très, très, très différents.
Donc ces vidéos, elles sont truquées, Olivier? C'est quoi? C'est trop beau pour être vrai?
Alors, pour une fois, je vais être positif. Je veux dire, non, moi, je trouve ça spectaculaire parce que c'est des choses qu'on n'arrivait pas à faire il y a 2-3 ans. Faut quand même, c'est vrai. Est à l'heure actuelle capable, dans certains cas, pas très compliqué, d'avoir un robot qui acquiert de la data et qui est capable de faire quelque chose d'intelligent. Et j'ai des collègues qui le font avec des petites équipes, 2-3 personnes. Donc ça, c'est super. Vraiment, là, il y a vraiment un gain. Et je trouve qu'il y a plein d'industriels qui prennent le risque de le faire et qui sont en train de regarder si ça tient sur le long terme. Et là, il y a des vraies questions pour lesquelles on n'a pas de recul. C'est est-ce que le robot, il va tenir suffisamment longtemps? Et là, je pense qu'il y a un point intéressant. Hein, c'est que on parlait là des 24 heures, mais le robot, quand il est déployé sur une usine, c'est pas des investissements sur un jour, une semaine, c'est sur plusieurs années. Et il y a beaucoup de robots qui ne tiennent pas plusieurs années. D'accord? Pour vous donner un exemple, sur des chaînes d'assemblage, on avait des robots qui tombaient en panne toutes les 6 heures.
Toutes les 6 heures?
Ça passe pas.
Ah oui? C'est une longévité limitée là, oui, effectivement.
Voilà. Et ça, sur ça, c'est, je pense que c'est Stéphane, voilà, qui avec plein de, quand ça s'appelle, d'un industriel, et nous, on fait la même chose. Nous, on teste, on a un robot Nitri chez nous, et tous les jours, on fait des démonstrations, il s'en prend plein la tête, et je suis impressionné de vous dire qu'après un an, c'est un des robots que j'ai eu qui tient le plus là-dedans.
Et alors que c'est pas les plus chers, parce que alors on parlait de ROI, parce que c'est important évidemment de savoir combien vont coûter ces robots, que ce soit en robot majordome, mais aussi dans les usines. Ça coûte combien aujourd'hui un robot Unitri?
Alors il y a des prix d'appel. Vous pouvez même les trouver sur AliExpress.
On peut en acheter sur AliExpress. Genre, oui, moi je peux commander par exemple un robot Unitri.
C'est plutôt en teasing, on va dire, parce que la réalité c'est que c'est plutôt pour montrer que ils commencent à être très abordables. Le petit R1 qui est la toute nouvelle génération de Unitri, qui un robot de développement entrée de gamme, hein, on est à moins de 9000 euros exemple. Et le robot qu'on imagine demain parfaitement programmable avec des mains, parce qu'il y a le coût des mains qui dépend énormément. Hein. Un robot, c'est un Lego, donc on peut lui rajouter plein d'accessoires, donc différents types de mains. Mais en moyenne, aujourd'hui, on est sur à peu près 40 000 euros.
40 000 euros, ok. Bah, ce qui, sachant qu'on imagine qu'il y aura des économies d'échelle, qu'à un moment, ça va baisser, se démocratiser.
Que les casques des réalités virtuelles peuvent coûter 6 000 euros, par exemple. Donc, ça peut. C'est pas, les prix sont bas. Enfin, bon, évidemment.
C'est un bon élément de comparaison.
Inabordable pour les 3, enfin, les 90% des gens.
Mais... Oui, mais c'est pour une entreprise, pour l'entreprise, on peut commencer à envisager des ROI, justement, sur 3 ans, avec des systèmes de leasing. Voilà. Enfin, je veux dire, on à ces prix-là, et on pense que quand même dans le temps, la technologie va évoluer, les prix vont baisser, mais le 30-40 000 euros me semble être un prix réaliste dans le temps avec l'évolution technologique.
Si on se projette un petit peu, voilà, on est dans un monde, alors peut-être dans 10 ans, où les robots seront capables de réaliser toutes nos corvées de manière totalement autonome, où ils seront capables de réaliser potentiellement n'importe quelle tâche mieux qu'un être humain. On fait quoi, nous, les humains ? On va sortir de la technologie pure et aller peut-être vers des sujets presque philosophiques, mais ce sera quoi le sens de notre vie ? C'est Elon Musk, hein, aussi, qui a toujours une vision un peu civilisationnelle des choses, qui dit, voilà, il va falloir qu'on repense la place de l'être humain, finalement, notre place dans la société et le sens de notre vie à l'aune de ces nouvelles technologies. C'est un sujet qui vous intéresse aussi, Olivier ? Vous y réfléchissez à ça ?
On y est très attentif, parce que c'est quelque chose que, comme on est scientifique, souvent on nous pose cette question-là. Et donc, du coup, moi, je donne des réflexions qu'on a sur le... qu'on voit à travers les entreprises et les pays. Donc par exemple en Chine, du fait de cette très forte industrialisation, ils ont un taux de chômage qui a énormément augmenté. Voilà. Donc pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de solution à ce niveau-là. Après, est-ce qu'on peut faire, quand on s'appelle nous, l'économie d'augmenter notre productivité ? Je pense que ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'on arrive à intégrer ces technologies-là. Ensuite, honnêtement, 4 milliards, je crois que c'était 4 milliards donc, qu'avait parlé Elon Musk de robots humanoïdes, il y a un moment où on va taper dans des ressources. Qui sont l'accès des quand on s'appelle au lithium pour les batteries, l'accès au quand on s'appelle aux matériaux rares. Est-ce que c'est ça qu'on
a envie de faire ? Il ira forer ça sur d'autres planètes, Elon Musk.
Les data centers.
Je me projette un peu, hein, mais non,
voilà. Mais par contre, si on fait civilisationnel qui me préoccupe énormément, c'est qu'on voit bien que à ne pas le faire, on perd un intérêt stratégique. Et vu la situation géopolitique, on voit en Ukraine à l'heure actuelle, si l'Ukraine arrive à résister à l'heure actuelle, c'est à leur capacité d'innovation, à leur capacité d'adaptation, d'accord, et d'intégration de nouvelles technologies
sur les drones,
à une très très grande vitesse. Voilà, notamment sur les drones, mais ils ont utilisé des AGV. Quand on voit le niveau d'adaptation, ils prennent un vieux tracteur, ils mettent une Raspberry Pi, ils font du planning. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Et donc du coup, là, je pense que de ce point de vue-là, avoir une souveraineté nationale me paraît, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut qu'on arrive à maintenir au minimum une connaissance à l'intérieur des frontières européennes et nationales pour pouvoir faire face à ce type de situation.
Marine, on fera quoi quand les robots feront tout à notre place ?
Oui, bah, je pense en plus cette question, on se la pose déjà un petit peu quand même avec les gros modèles de langage, notamment enfin pour les métiers dits intellectuels, col blanc, où on peut leur déléguer une très grande partie de ce qu'on fait si on décide qu'on met moins de qualité, mais on voit ce que ça peut nous enlever aussi le plaisir de faire les choses. Donc si on délègue ensuite toutes les tâches plus physiques, effectivement je pense que cette question peut se poser. Puis je me pose aussi la question de la confiance qu'on peut donner à ces robots. Je trouve que c'est même là, s'ils sont pas encore très au point, notamment sur la compréhension du monde physique, on le voit, donc c'est déplacé par exemple dans les allées de ce salon. On voit des vidéos virales par exemple d'un défilé en Chine où un robot a frappé un robot humanoïde a frappé un petit garçon. La question, c'est pas est-ce que le robot a pété les plombs, mais pourquoi est-ce qu'on lui a donné en fait cette liberté-là d'être près d'enfants, etc. On leur fait en fait déjà, je trouve, beaucoup confiance, alors que technologiquement, on n'y est pas encore.
Alors, sans vouloir finir sur une note trop négative quand même, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais je peux pas. Non, mais c'est intéressant parce que je voulais en venir à ça aussi. On peut pas éluder cette question, et j'en profite d'avoir un chercheur en robotique. Est-ce qu'on peut complètement éluder le fantasme Terminator, c'est-à-dire l'idée du robot qui à un moment se retournerait contre nous, ou vraiment il y aurait un truc complètement fou qui se produirait de ce domaine-là? Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui se posent la question. Est-ce que c'est une peur qui est complètement infondée, ou est-ce qu'il y a un risque à un moment?
Alors là, à l'heure actuelle, non. Vous lui donnez un grand coup de pelle derrière la tête au niveau de la CPU, à mon avis c'est réglé, hein. Il y a pas de...
Merci du conseil.
Voilà, il y a pas de...
On note.
Il n'y a pas de souci. Après, pour être tout à fait honnête, moi, les Cloud AI, la partie agentique où le système il est capable de s'auto-améliorer, c'est quand même extrêmement impressionnant. Alors, je pense qu'on aura peut-être d'autres problèmes à régler avant.
Ok.
Ça arrive.
Bon, Il me rassure pas complètement quand même, Olivier, parce qu'il dit pas complètement non. Puis c'est celui qui est peut-être le plus pertinent pour parler de ça, lui qui est vraiment complètement dans la recherche et dans les algos. Stéphane ?
Non, je pense que pour rester sur une note positive,
oui, c'est mieux.
On a énormément d'utilité pour ces robots aujourd'hui. On le voit par exemple dans le domaine de l'hôpital, les aides-soignantes qui sont débordées, qui ont besoin de ressources, où là les robots vont vraiment apporter de l'aide pour de la présence avec les personnes âgées, auprès des pompiers, dans des métiers extrêmement pénibles. Je parlais de la logistique. Donc avant qu'ils arrivent à nous remplacer, on a énormément d'utilité à avoir de ces robots dans notre quotidien pour améliorer la qualité de vie d'un grand nombre de personnes.
Ouais, l'accompagnement des personnes âgées, hein, c'est un point hyper important. Olivier.
C'est notre choix, c'est un choix social, donc c'est un choix collectif. Et c'est un outil qu'on développe. Et nous, on aide les entreprises françaises comme Kangaroo là, avec Pal Robotics pour. Et eux, par exemple, ils ont fait le choix social de ne pas travailler pour l'armée et pour aider l'industrie.
Parfait, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci beaucoup Marine. Merci Stéphane. Merci Olivier. Merci à tous pour votre fidélité et pour votre écoute de ces experts de l'IA, émission spéciale depuis Vivatech. Évidemment, lundi, vous retrouvez Raphaël Legendre pour les experts en format classique. Merci de nous avoir suivis et restez sur BFM Business. À tout de suite.
Les experts de l'IA sur BFM Business.